Making Waves Avignon présente.
À la jeunesse, le micro !
En direct du festival d'Avignon.
Et les micros, ils sont acquis ?
Ils sont acquis. Ils sont acquis.
Ils sont à nous !
Bonjour, ou plutôt bonsoir à toutes et à tous. Il fait chaud ces derniers temps, n'est-ce pas ? Je m'appelle Noah Dimenza, j'ai 18 ans et je vous remercie d'être là pour la quatrième émission de À la jeunesse, les micros. C'est un plaisir de revoir certaines têtes familières. Merci de nous suivre avec autant de ferveur. Notre émission d'aujourd'hui portera sur la création sous toutes ses formes et comment celle-ci peut impacter nos vies. Comment les dénonciations, les caricatures peuvent-elles faire passer des messages forts ? Le théâtre est-il un moyen de transmission de messages engagés ou simplement un moyen d'évasion ? Moi, je me souviens de la première fois où j'ai créé pour m'évader, entre guillemets. J'étais petit et seul, comme à mon habitude, et je dessinais. Je dessinais plein de choses de toutes formes qui avaient du sens, comme parfois non. Et vous, messieurs, dames, qu'est-ce que vous créez et dans quel but ? Je suis donc ravi d'être au plateau de cette quatrième émission, accompagné de mes acolytes. Tout d'abord, Enzo Coquerel.
Bonjour, bonjour, vous allez bien ?
Ouais. Linda Swakria.
Bonsoir.
Renaud Lupovici.
Salut.
Et moi-même, comme dit précédemment Noah Dimenza. Très bien, alors avant de lancer la petite discussion, nous allons tout de suite écouter un reportage réalisé par Basma et Mariama au lycée Mistral.
Pourquoi faire le choix de la création pour rencontrer le réel ? Bonjour, je m'appelle Maëlle, j'ai 16 ans.
Je m'appelle Dénine, j'ai 17 ans.
Je m'appelle Loane, j'ai 18 ans. Et moi, je voulais parler du spectacle Los Dias Afueras. Ça parlait de 5 personnes, transgenres et cisgenres, qui sortaient de prison et qui, en fait, nous racontaient leur vécu, tout ça.
On ne peut pas savoir si c'est la stricte vérité, mais c'est intéressant de voir comment c'est représenté. Ça nous donne une image et ça nous guide un peu, ça nous incite à comprendre l'autre.
Par exemple, il y avait une dame trans qui parlait du fait qu'avant qu'elle était dans le théâtre, elle sortait, elle rentrait de prison. Et en fait, c'était une prostituée. Et un jour, elle s'est fait casser les dents par quelqu'un parce qu'elle aidait, elle protégeait les autres prostituées. Et en fait, c'est pas normal d'avoir vécu ça, en fait. J'arrive pas à trouver les mots, vraiment. Mais c'est...
Ça a permis, cette pièce, je trouve, de mettre en lumière ce qui est caché, en fait. Quand les comédiens et les comédiennes nous exprimaient leurs histoires, ils avaient l'air de parler sans filtre, de nous donner toutes leurs pensées. Vraiment, il n'y avait plus de barrière entre nous.
C'est quelque chose, je me dis, si ça m'arrive, je ne sais pas comment je pourrais continuer, en fait. Je ne sais pas comment je pourrais arrêter d'en parler, comment je pourrais arrêter d'y penser, quoi.
Ça m'a permis, en tout cas, de voir des couleurs là où je ne pensais pas qu'il y en avait. J'ai trouvé ça vraiment impressionnant de faire ça, même si ça peut paraître pas banal, mais... La parole, l'expression de ces comédiens et de ces comédiennes, ça m'a permis de réfléchir et d'aimer encore plus penser et parler avec l'autre.
Et les micros, ils sont acquis ?
Ils sont à nous !
Aujourd'hui, comme dit précédemment, le thème, c'est la création et nous accueillons Gwenaëlle Morin. Bonjour.
Bonjour.
Nous étions aussi censés être avec Laure Adler qui nous a posé un lapin. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent.
Bon, on verra si elle arrive, je croise les doigts. Gwenaëlle Morin, bienvenue sur notre plateau. Vous êtes metteur en scène, vous aimez travailler avec les grands textes. Vous privilégiez le travail au plateau, le temps passé avec vos acteurs.
Oui.
Hier soir, j'étais à votre spectacle Quichotte. Les acteurs portent ce texte dans un jardin avec quasi aucun décor. L'armure et les armes de Quichotte étaient en carton. Du coup, des costumes réalistes ou tout autre artifice de théâtre, est-ce que c'est nécessaire pour figurer le réel ou pour raconter une fiction ?
Oui et non. Moi, j'en ai pas besoin. La question, ouais. Si, en fait, j'en ai besoin, mais j'essaie de m'en émanciper le plus possible. Donc, à un moment donné, effectivement, on se retrouve avec une espèce d'armure en carton. C'est juste qu'on n'a pas réussi à franchir ce cap-là, qu'on n'a pas réussi à pouvoir s'en passer. Souvent, on dit que je fais du théâtre avec des bouts de ficelle où je fais du théâtre pauvre, où je fais du théâtre avec trois fois rien, alors que je fais du théâtre avec des êtres humains. C'est étrange, ce réflexe matérialiste qui voit la pauvreté quand il n'y a pas de décor.
Ouais, j'aurais pas utilisé ce mot, pauvre.
En même temps, pauvre ne veut pas nécessairement dire, comment dire, quand on va, non, rien.
Hier, il y a eu des collègues à moi qui sont allés voir ton spectacle.
Ouais.
Et ils m'ont dit qu'il y avait un handicapé. Pour toi, c'est important de créer une pièce de théâtre avec un handicapé ?
Oui, effectivement, il y a un acteur, Thierry Dupont, avec handicap mental. Pour moi, ça a été. J'ai rencontré cet acteur-là en travaillant avec une compagnie de théâtre qui s'appelle L'Oiseau Mouche, qui est une compagnie d'acteurs professionnels avec handicap mental ou psychique. Et en fait, j'ai été touché par cet acteur-là. Et il y a quelque chose qu'on a partagé ensemble, c'est que quelqu'un qui n'a pas des structures mentales qui lui permettraient d'apprendre à lire ou d'apprendre à écrire. Et il me paraissait qu'indépendamment de son talent d'acteur, c'était aussi une certaine expérience de la réalité qui lui permettrait d'être à même de pouvoir interpréter le rôle de Sancho Panza, puisqu'à l'opposé de Don Quichotte, Sancho Panza ne sait effectivement pas lire, mais en même temps, ne sachant pas lire, Thierry Dupont était d'une certaine manière indemne de toute littérature. Donc je lui ai proposé ça, et il a été d'accord d'interpréter le rôle en prenant acte de cette chose-là, quoi, j'ai trouvé, voilà. Donc après, handicapé, pas handicapé, ouais, à un moment donné, vous voyez, ça, quand on part dans un projet de théâtre, je ne me pose plus la question, il y a des acteurs qui ont plus ou moins d'aptitude pour faire certaines choses, qui en ont moins pour en faire d'autres, qui en découvrent chemin faisant. À un moment donné, on est embarqué et il va falloir, quoi qu'il arrive, faire cette traversée ensemble, quoi. Donc, pour moi, c'est assez magique d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a un principe dans l'équipe de théâtre d'abolition des différences, en fait. La question, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir réussir à faire ensemble, en fait.
Par rapport à la question que je t'ai posée, Le truc, c'est que ta réponse est très touchante pour moi, parce que tu prouves qu'en gros, même si on a un handicap, on peut réaliser des grands espoirs.
En tout cas, moi, ça me passionne. Je prends ça comme une difficulté, a priori, bien sûr. Mais au même titre que s'emparer du texte de Cervantes, c'est difficile. Au même titre que travailler avec de grands et de grandes actrices, c'est aussi une certaine forme de difficulté. Donc la simple chose, c'est qu'effectivement, je ne les hiérarchise pas. Je les mets sur un pied d'égalité. Et à un moment donné, il s'agit de faire advenir quelque chose, quoi. Donc vraiment sans aucune frime ou sans aucune... On a très vite oublié, enfin moi j'ai très vite oublié la singularité de Thierry relative à son... Très vite on a oublié ça. Et le théâtre est magique pour ça, parce que vous le voyez bien vous aussi en tant que spectateur. Il y a un principe de transformation à l'infini, de métamorphose à l'infini. C'est peut-être dans cet espace-là qu'on fait une des expériences les plus intenses de transformation du monde, en fait. Oui, le théâtre change le monde. Oui.
À la jeunesse, les micros.
Les micros.
Je vais couper la discussion juste là pour écouter la chronique de Jeanne Coscas, une stagiaire journaliste à la Provence. Donc Jeanne, pourquoi faire le choix de la création pour raconter le réel ?
Ben c'est vrai ça. Pourquoi le témoignage ne suffirait pas ? Surtout au vu de l'importance du témoignage aujourd'hui, lorsqu'une femme prend la parole pour dire « moi aussi ». Mais en fait, ça sert à quoi l'art ? Ça sert à quoi la culture ? L'art n'est pas un messager plus fidèle à la réalité que l'expression directe ou le témoignage. Il est un messager plus puissant, qui porte le message plus haut, plus loin. Au IVe siècle avant notre ère, on faisait du théâtre pour la catharsis. Du grec ancien, purification, ça désigne un moyen de convertir les passions, de les purger, de sublimer les pulsions. Aristote décrivait, il y a 6000 ans, ce que l'art fait aux hommes, il disait, l'âme revient à elle-même comme sous l'action d'une cure médicale et ce soulagement s'accompagne de plaisir. Le plaisir serait alors lié à la décharge de certaines humeurs dont une concentration excessive constituerait la cause de troubles pathologiques. Pas assez de théâtre rendrait malade ? À quand des séances de théâtre remboursées par la Sécu ? Parce que c'est aussi à travers cette dimension de catharsis que l'accès à la culture prend toute son importance. Les plus pauvres, les moins instruits, ne pourraient donc pas purger leur passion, eux aussi. On sait que la pauvreté conduit à la violence. Une étude a été réalisée par des chercheurs américains et résultat, si on appauvrit la population ou si on augmente les inégalités, davantage d'individus se trouvent sous ce qu'ils appellent le seuil de désespoir. Sous ce seuil minimum de ressources nécessaires pour assurer ses besoins, la violence explose et perdure.
Ok, Jeanne, mais du coup, le témoignage aurait moins de valeur ?
En vérité, les deux se complètent. On a évidemment besoin de témoignages, et l'art s'en nourrit d'ailleurs. Regardez Écube, pas Écube, c'est exactement ça. Thiago Rodriguez s'est nourri de l'histoire de Nadia, une mère dont le fils autiste a été maltraité pendant des années en établissement spécialisé. Il a mis cette histoire sur scène pour lui donner un écho plus grand encore que la résonance médiatique de l'affaire à l'époque. Et puis, entre témoignage et création, il y a des artistes qui disent « bah, on va faire les deux », comme Mohamed El-Khatib, avec son théâtre documentaire. Dans sa pièce « La vie secrète des vieux », il a mis sur scène des vieux, qui racontent pour la plupart leur histoire, réelle, avec une écriture théâtrale, bien sûr, mais il voulait que ce soit des vieux qui parlent à la première personne, et c'est le cas. N'empêche que témoigner sur scène, devant un public, ça donne une force particulière aux propos. Parce que contrairement aux personnes qui portent un témoignage qui risque de disparaître avec elles, l'art, lui, est immortel.
Laure Adler est arrivée. Bonjour Laure.
Bonjour. Bonjour.
Comment
Bonjour.
Vous allez ?
Ben, ça va, je suis désolée d'être en retard. Je sortais d'un spectacle du Off avec un peu de retard. Il y a beaucoup de monde dans les rues d'Avignon. Mais c'est magnifique de voir cette ville envahie par des gens... qui sont tous heureux d'écouter des musiciens dans la rue, des jongleurs, des prestidigitateurs, des enfants assis par terre.
Et le truc, c'est que, est-ce que, si je ne me trompe pas du prénom, Laure Adler, si c'est bien ça, est-ce ouais. que tu peux nous dire c'est quoi le spectacle que tu as vu off ou pas ?
Oui, c'est une jeune compagnie, un collectif, qui vient de présenter au Théâtre des Carmes « Crier son œuvre ». Et c'est super intéressant, d'abord parce que c'est un collectif de jeunes metteurs en scène et comédiens. Et c'est pas Gwenaëlle Morin que je vais expliquer que toute la nouvelle génération aime bien échanger le statut et les rôles dans le théâtre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas metteur en scène à vie. On peut avoir des désirs d'être metteur en scène d'un spectacle et puis la fois suivante d'être comédien. C'est une écriture collective qu'on appelle de l'écriture au plateau. Et ça aussi, je trouve ça super intéressant de la part de la jeune génération. Et d'autre part, ça parle de la difficulté de faire du théâtre quand on est jeune, qu'on n'a pas la reconnaissance, qu'on est soi-disant émergent, qu'on n'a pas la possibilité de se faire financer ni par les collectivités territoriales, ni par les municipalités, et encore moins par l'État. Donc on fait appel à des kiss-kiss bang-bang, on fait appel aux copains des copains des copains, mais on garde la ferveur, l'amour du théâtre, comme la jeune fille vient de le dire. Le théâtre, c'est fait pour enchanter la démocratie et le rapport à l'autre. Et ben, c'est ce que montre ce spectacle plein d'espoir et de vitalité, de croyance au théâtre comme un lien démocratique.
Et est-ce que cette jeunesse, elle raconte mieux le réel peut-être que l'ancienne génération ?
Je dirais pas ça, je dirais qu'il faut pas opposer les générations. D'ailleurs, ce jeune collectif, là, au Théâtre des Carmes, cite Jean Villard, qui a fondé, comme vous le savez, ce Festival d'Avignon dans la continuation de l'esprit de la Résistance. Et cette jeune troupe cite aussi André Benedetto, qui est celui qui, dès 1964, dans le sillage de Jean Villard, a ouvert à l'année ce Théâtre des Carmes. Donc on voit bien que cette continuité, elle est transmise de génération en génération. Moi, je crois que ce qui est important, c'est pas d'opposer les générations, mais au contraire, de les faire cohabiter, ou en tout cas que les plus anciennes générations transmettent leurs valeurs, leurs pulsations de vie, leur enthousiasme et la nécessité qu'il y a pour eux à faire théâtre. Mais je crois que plus il y aura de mélange de générations, mieux ça sera pour les spectatrices et les spectateurs. Mais par contre, il y a en France un très grave problème qui existe depuis maintenant des décennies, qui est que les personnes qui sont responsables des institutions théâtrales les plus importantes en France, eh bien, ont à cœur d'abord de s'autoprogrammer. Moi, je ne trouve pas ça normal, parce que quand on dirige une institution, ce n'est pas pour se programmer soi-même, c'est pour tendre la main à d'autres et faire écouter d'autres. Et d'autre part, à faire des coproductions avec d'autres directeurs d'institutions théâtrales. Je ne dis pas que c'est mal en soi artistiquement, parce qu'en tant que spectatrice, j'en profite et c'est du très bon théâtre, mais je dis attention, où, comment vont faire les jeunes pour pouvoir accéder à la visibilité des scènes nationales ou des scènes qui sont dans les territoires. Tout est bouché pour les jeunes générations. Il ne faut pas que les gens qui réussissent et qui ont les clés du pouvoir théâtral aujourd'hui occupent leur institution, coproduisent avec leur père, P-A-I-R-S et pas P-E-R-S, et donc n'autorisent pas les jeunes générations à pouvoir, comme des jeunes pousses, accéder à la visibilité du grand public.
Merci pour ça. Ouais. Ça, c'était un sujet qu'on a évoqué dans nos précédentes émissions. Aujourd'hui, c'est la création pour raconter le réel. Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Je pense qu'il y a de nombreuses possibilités de définir ce mot « création ». Si le mot « création », c'est définir le réel, on peut le qualifier de théâtre documentaire ou de théâtre autobiographique. La jeune femme vient de parler là, du spectacle très émouvant de Mohamed El-Khatib sur la vie secrète des vieux. Alors, ce n'est pas des gens qui racontent leur vie sur le plateau. Moi, ce que j'ai trouvé absolument extraordinaire dans le spectacle de Mohamed El-Khatib, c'est que c'est un spectacle, c'est du théâtre. C'est le théâtre qui transcende la vie des gens, même si c'est fait à partir de la matière de leur vie. Mais le théâtre est constamment sur le plateau. Cette espèce de décalage, cette espèce de vision, cette espèce de possibilité de compréhension intérieure de nos propres vies, Mohamed El-Khatib, il le fait de la première minute jusqu'à la dernière minute.
Laura Adler.
Oui,
excusez-moi.
Pardon, je suis en
train de... Non, excusez-moi de vous couper. Vos réponses plus qu'explicites nous mettent dans l'embarras au niveau du temps. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Clément qui va nous introduire la musique du jour.
Et les micros, ils sont à qui ? Ils sont à nous.
En direct du Festival d'Avignon.
À la jeunesse, les micros !
Bonjour tout le monde. Bonjour Arthur Bégilette. C'est toi qui as produit le générique de l'émission et on t'en remercie tous. Tu es le fondateur du groupe Moriarty qui est fort de 6 albums studio. Tu te produis également en solo sous le pseudonyme de Mick Strauss. Tu as rejoint le collectif Astéréotypie en 2014. Ce groupe est composé de 8 personnes neurotypiques et neurodivergentes, dont 3 chanteurs et une chanteuse. Tu vas nous jouer une chanson mystère, c'est à toi.
Alors j'ai proposé, vu le thème de l'émission qui parle de pierres, hein, donc on a ramassé des cailloux, peut-être des pierres, voilà. Et j'ai proposé à tous ceux qui en ont devant eux ou devant elles de les mettre devant les micros par contre et puis de commencer comme ça quoi. Et je sais pas ce que je vais jouer et on va voir ce qui va se passer.
Laura Adler, vous avez des cailloux aussi.
Je vous laisse commencer et puis on va voir ce qui se passe. On s'est écouté.
Oui.
Vous avez accéléré le tempo, je vous ai suivi, ensuite c'est parti un peu ailleurs et après, à la fin, tout le monde s'est calmé en même temps. Et on ne se connaît pas, hein ?
Non, absolument pas. Mais en tout cas, merci beaucoup Arthur. J'ai mis des graviers partout sur mes feuilles, mais c'est pas grave, c'est les aléas du direct. On va tout de suite enchaîner avec Clément qui va nous introduire un reportage qu'il a lui-même réalisé en interviewant André Markovitch.
Tout à fait. J'ai eu la chance avec ma camarade Elia d'interviewer hier ce traducteur, connu pour son travail sur Shakespeare et Dostoïevski. Bonjour André Markovitch, vous êtes né en République tchèque, d'une mère russe et d'un père français. Vous avez mis ses origines à profit en devenant traducteur, poète et éditeur. Vous jonglez avec les mots des autres, principalement du russe au français. Est-ce que être un traducteur, c'est être un créateur ?
Quand j'ai fini de traduire toutes les œuvres de fiction de Dostoïevski, c'était 45 volumes, j'ai fait une émission sur France Culture. L'intervieweur, qui était quelqu'un qui me connaissait très bien, m'a dit « ça vous fait rien d'être un second couteau ?» Eh ben, traduire, c'est écrire. Et c'est écrire d'une façon très intéressante parce que ça permet d'introduire dans ta langue de travail, qui en l'occurrence pour moi c'est le français, des intonations et des formes qui viennent d'autres langues, qui naturellement ne seraient pas présentes dans un texte non étranger. La littérature étrangère permet d'enrichir la littérature nationale.
Êtes-vous conscient du pouvoir que vous avez ainsi ?
Sur qui ? C'est quoi le pouvoir ? Moi j'ai eu cette chance dans ma vie absolument incroyable de ne jamais participer à un jury de quoi que ce soit, de ne jamais décider quoi que ce soit pour qui que ce soit, à part moi-même. Et encore, est-ce qu'on est sûr qu'on décide pour soi ? Et si déjà tu n'es pas capable de décider pour soi, comment diable tu pourrais décider pour les autres ? Évidemment que c'est une prise de pouvoir. Mais la question n'est pas le pouvoir. La question c'est qu'est-ce que tu en fais ? Est-ce que tu veux que le monde entier parle comme toi tu parlerais dans ta petite personne ? Ou est-ce que tu considères que le travail du traducteur, c'est de rendre compte autant que possible de la diversité des voix du monde ?
Il y a plusieurs formes d'expression et plusieurs formes d'art. Comme moi, je suis de la génération où c'est plutôt le slam, le rap. Vous, est-ce que vous avez d'autres façons, par exemple, d'exprimer une émotion ou un sentiment ?
Vous dites une chose qui est entièrement fausse. Vous faites un rapport entre une forme d'expression et un âge. Qui vous dit que tous les jeunes de votre âge ont cette forme d'expression ? Vous avez dit un lieu commun. C'est-à-dire, l'art de la jeunesse, c'est le slam. Mais qui dit ça ? Je connais plein de jeunes dont l'art de l'expression, c'est le violon classique. Vous prenez votre cas, et je suis persuadé que ce n'est pas le vôtre, comme une généralité. Mais justement, non. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas une expression d'un âge. Il peut y avoir toutes les expressions que vous voulez.
C'est vrai que malheureusement, quand on voit les statistiques, on voit que, notamment, les jeunes lisent très peu, voire pas du tout. Donc, comme vous le dites, des jeunes lisent, mais ce n'est pas le cas de la grande majorité.
Et avant, ils lisaient ? Mais non ! Par contre, il y a autre chose qui est très important. C'est-à-dire que le problème est une baisse constante de l'exigence. On vous laisse passer des fautes d'orthographe en disant « c'est pas grave parce que vous avez autre chose ». Non, parce que ne pas travailler sur la base de la grammaire, c'est vous priver des bases de l'expression. C'est vous rendre absolument malléable à tous les lieux communs, à toutes les idéologies.
Finalement, ce que vous dites, c'est que c'est voulu.
C'est pas voulu au sens qu'il n'y a pas un complot contre ça. C'est voulu par une espèce de manque d'exigence. On veut faire plaisir à tout le monde. On fait plaisir à personne. Exactement. Ça implique une responsabilité de la personne qui parle, un respect de la personne qui écoute et une exigence objective.
Mais justement, ce ne serait pas ça qui manque, le respect ?
On dit que la jeunesse ne respecte pas les adultes, etc. Moi, je pense que c'est le contraire. Parce que justement, on veut tout le temps vous faire plaisir.
Et ça nous dessert.
Ça vous tue.
Et les micros, ils sont à qui ?
Ils sont à nous !
Laura Adler, merci de revenir nous voir cette année. Votre fougue journalistique nous avait manqué. Vous êtes une femme de radio aguerrie, vous avez couvert de nombreux événements culturels. Une réaction à chaud sur le reportage qu'on vient d'entendre ?
Écoutez, oui, parce que j'ai beaucoup d'admiration depuis une trentaine d'années, dès que j'ai rencontré pour la première fois le travail d'André Markovitch. Il n'a pas seulement traduit Shakespeare, il a aussi traduit Onegin, Tolstoï, il nous rend le théâtre russe extrêmement proche, il a traduit Melville aussi, il navigue de manière absolument exceptionnelle dans différents univers de langage, mais aussi d'habitacle de théâtre. La plupart des metteurs en scène d'aujourd'hui, quand ils montent un classique, comme on dit, font appel à la traduction de Markowitz parce qu'il a cette espèce de génie de rendre très proche de nos préoccupations la langue, la chair même du théâtre qu'on dit classique et qui normalement devrait être éloignée de nous. C'est un être incroyable. Et puisqu'on parle d'André Markowitz, moi je voudrais vous dire d'aller regarder son blog. Parce que André Markowitz tient un blog depuis le début de la guerre en Ukraine. Il tient un blog quasi quotidien où il explique ce que font les Russes aux Ukrainiens. Et aujourd'hui, où nous avons été, à juste titre, complètement ébranlés par ce qui nous est arrivé entre les deux tours et puis cette divine surprise du deuxième tour des élections législatives, l'actualité médiatique, évidemment, s'est un peu retirée, comme la mer se retire de l'actualité tragique de l'Ukraine et de la guerre qui s'y déroule. Mais vous le savez peut-être, il y a encore eu, il y a 3 jours, un hôpital pédiatrique qui a été bombardé par les forces russes. Il y a des civils qui meurent. Donc moi, je veux rendre hommage à André Markowitz et je veux rendre hommage à tous les combattants et combattantes en Ukraine en ce moment.
Moi, j'aimerais juste rebondir aussi sur la question de la traduction qu'il évoque. On préparait cette émission en se disant qu'on allait questionner un peu la place de la fiction et du témoignage et de savoir lequel des deux médiums un peu aidait à mieux raconter le réel. Et j'en suis venue à chercher comment on traduisait « il était une fois » dans plusieurs langues. J'ai trouvé qu'en arabe, on disait « il a été » et « il n'a pas été ». Ce qui m'a fait me rendre compte qu'en français, le « il était une fois » en fait faisait oublier que l'histoire qui nous est racontée a vraiment eu lieu. Il était une fois. Et en fait, on lit cette formule un peu en oubliant ça. Donc je pose ça là, est-ce que ça vous inspire quelque chose ?
Ben, ce que vous dites est très profond et très important. C'est comme s'il y avait une assignation de compréhension d'une réalité et qu'effectivement, le « il était une fois » quelque chose de l'ordre d'un impératif catégorique. Oui, ça s'est passé, alors que c'est l'univers du conte, c'est l'univers de la répétition, c'est l'univers de la spirale du temps, c'est l'univers de l'atteinte des horizons impossibles, c'est la possibilité d'étreindre l'infini. Mais je crois que cette question s'adresse plutôt à Gwenaëlle Morin, parce que quand j'ai vu son merveilleux spectacle sur Don Quichotte, j'ai compris que justement, il s'attaquait à cette question essentiellement.
Je serais curieux d'entendre en arabe comment ça se dit. Quelqu'un saurait le dire en arabe.
Alors, mais je vais demander à Basmat de me corriger si jamais je le dis mal, mais il me semble qu'on dit Kain Yamakain. Est-ce que Basmat c'est ça ?
C'est oui, Kain Yamakain, c'est oui, en arabe on dit comme ça, mais je ne sais pas comment on dit en français vraiment.
Ouais, et, voilà.
Et ça veut donc dire il a été et il n'a pas été,
ça c'est ça ? Ça propose les deux, ouais. Ah, il a été super. Et il n'a pas été.
Telle est la question, on pourrait poursuivre un autre.
Il aurait pu être. On peut réinventer des formes en français aussi. Ah, hein.
C'est génial, il y a un principe d'infini, quoi. C'est super. Il a été et il n'a pas été, quoi. Oh, incroyable. Donc oui, que répondre à ça, je ne sais pas.
Quichotte, il a été et il n'a pas été.
Voilà. Dulciné a été et n'a pas été et sera. Il y a quelque chose de là, effectivement, un principe d'infini, quoi. En tout cas, il n'y a pas la formule du futur, parce qu'elle est précisément, je pense, dans celui qui est en train d'entendre l'histoire, en fait. Celui qui a créé, c'est celui qui écoute, quoi. Celui qui est à venir, c'est toujours l'auditeur, en fait. C'est celui qui est vivant.
Est-ce que vous pourriez rappeler qui est Don Quichotte ? Parce qu'en fait, moi, ça m'a beaucoup ému de voir votre pièce. Ouais. Parce que j'avais vraiment l'impression de retomber dans une posture d'enfant. Uh-huh. J'avais l'impression qu'on me racontait une histoire. Et en fait, en cherchant un peu qui était Don Quichotte, il traite en fait de toutes ces conflictualités-là entre le réel et et la fiction.
C'est difficile de donner une définition de Quichotte. Mais en même temps, oui, c'est un pauvre type de 50 ans qui, à un moment donné, décide d'aller vérifier ou d'aller vérifier dans le réel si tout ce qu'il a lu dans les livres peut fonctionner, quoi. Donc, c'est ce que je fais, moi, d'une certaine manière, en faisant du théâtre. En fait, je m'appuie sur des textes qui existent déjà. Même d'une manière même élargie, on arrive dans... J'emprunte cette idée à un auteur des années 60 qui s'appelle Arthur Adamoff. Pour Arthur Adamoff, on est jeté au monde, en fait. On est exclu au monde, en fait. On arrive dans un monde dans lequel on est, peut-être par notre mère, je ne sais pas, mais en tout cas dans lequel il n'y a pas de place pour nous, en fait, et il va falloir construire la possibilité d'exister dans ce monde-là, en fait. Et cette aventure-là, ce sentiment d'exclusion au monde conduit Beckett à un moment donné à dire c'est naître qu'il n'aurait pas fallu. Donc comment est-ce qu'à un moment donné on arrive à... Je ne sais pas comment dire. Je suis tellement sous le coup des textes des autres, je suis tellement sous le coup de Cervantes, j'ai tellement besoin de ce que d'autres ont déjà écrit, ont déjà fait, que je n'ai pas d'autre possibilité que de inlassablement faire du théâtre en fait. J'ai pas grand chose à... Je suis assez désarmé, je ne sais jamais quoi dire en fait, je ne sais jamais quoi dire.
Et vous avez dit que vous ne saviez pas faire sans les mots des autres, et du coup, vous sauriez nous dire un peu quelle première histoire vous a hanté dans votre jeunesse ou dans votre adolescence?
Je ne me souviens pas, je n'ai pas le sentiment d'avoir plus j'ai le sentiment d'être... C'est sans doute ça qui fait qu'on est vieux, peut-être, c'est le sentiment c'est de ne pas avoir le sentiment de l'être en fait. J'ai l'impression que j'ai encore 8 ans et que l'histoire, je ne l'ai pas encore entendue en fait.
Mais je ne pense pas que ce soit le fait d'être vieux, parce que moi non plus, en fait, j'ai cherché en vous posant cette question et en fait, je ne sais pas non plus quel texte m'a hanté.
Ouais, moi non plus, je ne crois pas.
Je n'ai pas encore entendu cette histoire, elle reste à faire.
En tout cas, il y a beaucoup d'actions autour du plateau, on a des nouveaux invités.
Avant d'introduire les nouvelles personnes qui sont arrivées sur le plateau, on va tout de suite écouter une chronique que notre ami Miguel a fait et qui va nous conter tout simplement.
Allez.
Et les micros, ils sont à qui ?
Ils sont à nous !
Bonsoir à tous, je m'appelle Miguel, j'ai 23 ans, je suis d'Avignon, je viens de la communauté gitane et je suis espagnol aussi. Dans toute famille gitane, il y a obligé une personne qui joue de la guitare ou qui chante. Chez nous, c'est à l'ancienne. On a une tradition, quand il y a un deuil dans une famille gitane, on ne doit rien fêter pendant un an, pas de mariage, pas de musique et même parfois, pas regarder la télé. Et chez moi, c'était mon père le musicien de la famille. Je me souviens quand j'étais petit, il jouait de la guitare pour m'endormir. Il jouait des chansons en espagnol, il savait refaire les Gypsy Kings. Même s'il travaillait tout le temps, il trouvait toujours un moment pour jouer de la musique, que ce soit la journée ou le soir tard. On le regardait, on était contents avec mes frères. Il jouait tarpin bien. Mais un jour, il y a 5 ans, il est rentré du travail et il n'a pas pris sa guitare. Et le lendemain, pareil, c'était bizarre. Parce que normalement, c'était sa routine de tous les jours. Mais on a appris que c'était à cause de la muscu. Il se trouvait trop maigre et s'est dit qu'il allait s'entretenir physiquement. Maintenant, il va à la salle, il a un coach, il fait des compétitions de bodybuilding. Il ne joue plus jamais de la guitare. Je suis un peu jaloux parce que franchement, ça a bien marché la muscu sur lui. Il est stock, le padre. Il m'a toujours dit que j'étais fait pour la musique. Il est même parti un jour jusqu'en Espagne pour aller m'acheter une guitare. Mais moi, j'ai laissé tomber pour faire du foot. Il aurait beaucoup aimé que je continue. En fait, moi, j'ai jamais eu de musique dans ma tête. La musique, je l'écoute en boîte ou dans des mariages, et je ne chante pas de berceuse à ma fille de 2 ans. Pour moi, la musique, je trouve que ça enferme dans une bulle. Quand tu écoutes de la musique, si tu es triste, tu t'enterres toi-même. La tristesse, c'est le trou, et la musique, c'est l'appel. Quand je suis triste, je mets dans un endroit tranquille, dehors, et je réfléchis en silence. Mais je suis quelqu'un souvent qui réfléchit trop. Moi, c'est par le sport que je m'évade. Je porte lourd pour oublier mes soucis. Peut-être que mon père, c'est pareil. Ma fille, quand elle entend de la musique, elle se met tout de suite à danser. Il y aura une future danseuse dans la famille. Le goût pour la musique a peut-être sauté une génération.
Merci beaucoup, Miguel. Je vais introduire à nouveau Arthur, qui va nous parler de l'endroit où il travaille, Astéréotypie.
J'aime bien que tu dises que c'est un endroit, parce que je trouve ça très juste, c'est un groupe. Mais c'est vrai que c'est aussi un endroit dans ma vie. Je les ai rencontrés il y a très longtemps maintenant, 14 ans pour certains, comme Johan qui est à la table, là en train de regarder le programme du IN, et Claire qui est un peu moins longtemps, mais qui est là.
Tout à fait. Ouais. On peut dire qu'il y a 5 ans.
Ah oui, ça fait que 5 ans.
J'ai juste rencontré Christophe ailleurs, à Rue des Lambres.
Christophe, c'est Paris, Christophe voilà. Qui est là dans le public, qui a créé le groupe.
Bonjour Christophe.
Dans un bonjour, institut bonjour. Médico-éducatif à Bourg-la-Reine, et donc il y a 15 ans à peu près, hein, quasi. Qu'est-ce que t'en penses, Johan ?
Moi, je pense que c'est vraiment un truc assez incroyable et démentiel. Quand je dis qu'il y a du niveau, on a l'impression qu'on a tout changé depuis le début. Au fil des années, on a commencé à évoluer. Grandir est une étape très importante pour aller encore plus haut. Dans une aventure comme celle-là, il est difficile d'exprimer ses talents et d'imaginer ce qui est de meilleur dans cette vie.
Et c'est quoi cette aventure ?
C'est d'être chanteur sur scène. Par exemple, quand on va jouer tout à l'heure à 23h30, il va falloir serrer un peu les boulons. Il faut vraiment être aussi entreprenant et très attachant pour aller encore plus loin dans l'aventure et aller encore le plus haut.
Je le pense la même chose que Johan. Et c'est se donner du plaisir à l'atelier d'écriture. Aussi. Tandis que moi, j'adorais.
Et il faut donner aussi du sens. Du sens. Quand on sait, à un point important, à un moment très important de l'après-midi, il faut être, dès le début, sur un rythme d'enfer. Il faut mettre l'enfer aux yeux ce soir.
Est-ce que vous sauriez nous dire à partir de quoi vous partez, justement, pour écrire vos textes? Vous vous basez sur quoi?
Ben, on les travaille au stylo. On les travaille à la main, en les écrivant.
Exact, tout à fait. L'important, c'est de se préparer.
Effectivement, il faut être dès le départ comme cela. Quand on dit, parce qu'un rythme comme ça n'est jamais effréné que d'autres, on est vraiment à une sensation qui reste dans le sens.
Claire, t'as plein de carnets aussi, non? T'écris tous les jours?
Tout à fait, j'ai terminé tous les carnets alors que ça m'a trop vraiment gênée. Pourquoi? On me les avait offertes sans faire de peine à personne. Il faut accepter chaque cadeau.
Parce que viser un strike, c'est vraiment quelque chose d'important. Est-ce que quelqu'un connaît un peu le strike?
Et moi, j'ai une question pour Johan. Parce que pour moi, tu es une personne qui m'a rendu heureux dès que je t'ai vu. Et même, je ne sais plus ton prénom.
Claire.
Même Claire, vous me rendez heureux. Parce que le truc, c'est que vous montrez la joie de vivre. Et moi, ça me fait un grand bonheur au cœur.
Je vous remercie. C'est ce que je le faisais à tout le monde.
Est-ce que vous êtes chaud ce soir?
Oui.
Pour mettre le feu?
Bien sûr.
Et on les applaudit.
Et il va y avoir du bruit, je vous le dis.
Une dernière chose, à part la poésie, j'adore les musiques et j'adore les avoir toutes écoutées, chaque chanteuse.
Et chanteur ou pas?
J'écoutais mon idylle préférée Céline Dion, Natacha Saint-Pierre avec les poèmes de Thérèse de Lisieux qu'elle reprenait, pour l'aide des chœurs du Petit Beurre, une église dans une région. Et j'écoutais aussi Jennifer, Laurie, Marie-Lou, Lame, Larousseau, Gilles Zinati, Lenaka, Native, Shanice, Maria Carré, Ariana Grande, tout ça, et Jane Faustin même.
Par ailleurs, on se dit qu'il faut être vraiment dans les grands noms de la chanson. Il faut toujours évoquer que quand on est prêt, il faut être vraiment dans une gestion, dans une impasse. Il y a 12 ans, c'était vraiment comme si on pouvait imaginer de mieux. Mais là, on peut se dire qu'il faut être vraiment à 200% soi pour être vraiment dans l'arène brûlante.
Quand tu chantes, est-ce que tu te dis « je suis vraiment moi » sur scène en train de chanter, ou est-ce que tu te dis « je suis un personnage fictif qui chante » ou est-ce que c'est vraiment toi, chanteur?
Non, je suis vraiment moi sur scène. Mettez la flamme comme dans Rammstein.
Et tu vas allumer le feu comme
Johnny Hallyday. Ça coûte très très cher.
Ouais, mettez-le parce que ça va être bien.
Bonnel Morin, une réaction...
Nous allons bien amuser.
Une réaction à chaud sur les propos de ces futurs chanteurs?
Non, c'est super quand vous dites comment vous travaillez les textes et que vous
on répondez. On les met à la main.
Ah, et les fait, ben ça c'est mortel.
À la main au fur et à mesure, mais des fois on se dit qu'on les écrit à l'ordinateur.
Ouais. Très rare.
Mais il est possible aussi. Mais il est possible aussi que quand il faut trouver une solution agissante, faut agir pour réussir ce qui fait de mieux.
Écrire avec la main, c'est pas mal.
Je vais
essayer de faire ça.
Et normalement, quand on dit le proverbe de Rammstein, « Viva la liberté de mettre le feu ce soir sur scène !»
Je ne la connaissais pas, celle-là. Merci.
Et merci beaucoup, vraiment.
En parlant de musique, de douceur pour les oreilles, Renaud, on n'avait pas quelque chose à écouter ce soir? Un PAD Campus, je crois.
Alors oui, Noah. Du coup, dans le cadre de notre partenariat, où nos émissions seront diffusées sur tout le réseau Radio Campus, il y a sur Avignon 7 jeunes de Radio Campus qui ont carte blanche pour nous fournir chaque jour une capsule sonore. Ils ont appelé ça des cadavres ex-keys, les clés en anglais. Pour la capsule d'hier, ils ont eu l'air d'avoir des difficultés sur l'activation des micros. J'espère qu'aujourd'hui, ça ira. On découvre ça tous ensemble.
Cadavres ex-keys. Capsule sonore décomposée depuis l'extérieur des salles de théâtre du Festival d'Avignon.
Du coup, je vais donner tous les mots qui se trouvent autour de moi. Tu me mets, il faut me mettre un timer, du coup, sinon je m'arrête pas jamais, moi. Alors, le soleil, un parapluie, des affiches accrochées à un parapluie de couleur violette avec des fleurs dessus.
Et sur la porte d'entrée de ce théâtre, il y a une feuille scotchée où c'est écrit Silence, spectacle en cours. Et là, il y a un monsieur actuellement qui est en train de rentrer dans ce théâtre. Et lui, il n'en a rien à faire du silence parce qu'il rentre en étant au téléphone. Donc la dame de l'accueil lui a fait signe de lui dire de se taire. Et lui, il est en train de lui expliquer. Mais là, on ne sait pas ce qu'il se dit parce qu'on n'est pas à l'intérieur. Mais il est en train de lui expliquer qu'apparemment, il doit être au téléphone, c'est important. Il a une enveloppe dans sa main. Peut-être que c'est un monsieur important, je sais pas. Il est habillé tout en noir et ses chaussures, elles sont très flash.
Un parpaing, un pot avec des cailloux dedans. Des lignes téléphoniques sous terre, un passage piéton. Une robe couleur jaune, des talons bas. Des chaussures, des pieds avec des veines qui ressortent.
Un portail aussi, assez vieux. Et finalement, le contraste entre l'affiche et le portail, c'est assez, la définition d'Avignon. Une vieille ville avec des pièces classiques comme très contemporaines. Et c'est ça qu'on aime, c'est ce décalage à Avignon.
Un peu plus loin, on a des petites terrasses où là-bas, il y a plus de monde. C'est vrai que nous, devant le théâtre, il n'y a pas grand monde. Et puis, de toute façon, le silence est assez... respecter, les gens passent devant en étant silencieux, sauf ce fameux monsieur qui est toujours derrière la billetterie d'ailleurs et toujours au téléphone avec les lunettes sur le front, les lunettes de vue sur le front. Il est en train de nous regarder, j'ai l'impression qu'il... Ah non, il ne nous regarde plus, mais j'avais l'impression qu'il voulait en découdre.
Regarde-moi. Drapeau, cavalier, moustache, chapeau, téléphone, sacoche, chabran.
Là, il n'y a plus personne. À croire que commenter des choses, c'est plus bizarre que de faire la parade dans Avignon même. Et pourtant, c'est tellement concret.
Ouais, j'ai épuisé le réel, là.
Et les micros, ils sont à qui ?
Ils sont à nous !
Mesdames et messieurs, merci à tous de nous avoir écoutés. C'est pratiquement la fin, mais c'est pas fini. Alors Claire, vous voulez nous chanter quelque chose ce soir ?
Bien sûr.
J'ai été ravi d'être avec vous ce soir. On se retrouve demain pour une émission qui porte sur l'amour.
Je ne sais pas lire les lignes de la main, mais je peux voir dans nos âmes noires d'obscurs désirs, de sombres dessins qui viennent le soir hanter nos miroirs. Je sais nos envies, nos habitudes, nos tristes manies, nos solitudes, trop humains pour le bien animal. Quand ça va mal, c'est ma prière. Moi, mon rêve fou, laissé sur terre, que sommes nous? Je sais nos envies, nos habitudes, nos tristes manies, nos solitudes, trop humains pour le bien animal. Quand ça va mal, c'est ma prière, mon rêve fou, laissé sur terre. Que sommes-nous ? C'est ma prière, mon rêve fou, laissé sur terre. Que sommes-nous ?
Merci à vous tous.
Merci.
Alors.
Merci beaucoup, Claire. Merci.
Les micros. Les micros.
Les micros.
Ils sont à qui ?
Ils sont à qui ?
Ils sont à qui ?
Ils sont à nous.
Merci beaucoup aux jeunes gens de Astéréotypie, voilà, j'ai réussi à bien le dire. Merci Johan, merci Claire, merci Arthur d'être venu ici avec ces jeunes. C'était une expérience enrichissante. Merci Gwenaël Morin. Merci Laura Adler aussi qui est partie. Je suis un peu ébouriffé par le désordre de cette émission. Je vais laisser la parole à Clément qui va terminer en beauté parce que moi je suis fatigué.
Merci au public. C'était à la jeunesse les micros. Un projet de Making Waves et du Festival d'Avignon. Avec aujourd'hui à l'antenne, Noah Di Menza, Linda Suakria, Renaud Lupovici et Enzo Coquerel. Les chroniques étaient signées par Miguel Brunebeau, Jeanne Koskas et Idriss Vivar. Les reportages par Basma Nasser, Maria Massedi et Clément Chaise. La séquence musicale était présentée par Clément Chaise avec aujourd'hui en live Arthur Bégilette. À la technique, Maria Massedi et Louise Bréon. Et à la rédaction de cette première émission, Basma Nasser et Bertie Cado. On se retrouve pour notre cinquième émission qui aura pour thème l'amour et dans laquelle on recevra Elsa Le Poivre et Sephora Pondy, comédiennes dans le spectacle Écube, pas Écube, Mohamed El Khatib, metteur en scène de La vie secrète des vieux, et Eva Rami, autrice, comédienne et metteuse en scène de Va aimer. Vous pourrez retrouver l'ensemble des projets de Making Waves sur notre site www.mkwaves.org. À demain!